Est-ce que le diable existe réellement ou pas? Quelle que soit votre réponse ou la mienne, il me semble que nous ne devrons pas, en tout cas, prendre à la lettre le récit qui met en scène Jésus face à la tentateur dans le désert de Juda. Nous sommes bien et belles devant un récit symbolique et une construction littéraire de l'évangile de Luc. Marc, l'évangile le plus ancien, dit juste un seul verset. Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Il n'en dit pas plus. Je pense qu'il n'en savait pas plus. C'est Luc et Matthieu, écrits plus tardivement, qui nous donnent ce récit comme une mise en scène élaborée, un véritable dialogue entre Satan et Jésus. Mais j'ai du mal à croire, je l'avoue, que Jésus, toujours si pudique sur lui-même, a raconté tout cela en détail à ses disciples. Nous sommes sans doute face à une construction littéraire et symbolique de l'évangéliste. Mais il me semble aussi évident que nous avons ici l'écho d'une vraie confrontation de notre Seigneur Jésus-Christ avec des forces obscures, des voies intérieures, des tentations terribles et diaboliques pendant ce séjour dans le désert. Cet épisode que racontent les trois évangiles qui situe tous les trois directement après le baptême de Jésus. Et c'est bien là la clé pour comprendre cet événement, le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus est un des faits historiques le plus sûrement assuré par de la vie du Christ, par les quatre évangiles, les actes des apôtres et je passe. Nous savons que Jésus, le charpentier de Nazareth, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, comme beaucoup d'autres juifs attirés par le message, la parole de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et avant ce baptême, Jésus était un homme totalement inconnu, charpentier d'un petit village en Galilée. C'est après son baptême, disent les textes, qu'il commence à prêcher la bonne nouvelle dans toute la Galilée et à rassembler très vite des foules autour de lui. C'est bien le baptême qui a fait basculer la vie de Jésus. C'est en quelque sorte le baptême qui a vu Jésus naître à sa vocation, en tout cas sa mission, peut-être à lui-même. Et à la prise de conscience ce qu'il était véritablement sous le regard de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, les textes nous disent que pour lui le ciel s'ouvre et qu'il entend une voix qui lui dit « Tu es mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie ». Là encore, probablement, dans le récit, nous avons une trace presque littéraire de quelque chose de ce que Jésus a réellement vécu. C'est-à-dire, Jésus, à ce moment-là, a été saisi au plus profond de lui-même par l'amour de Dieu pour lui. « Tu es mon Fils bien-aimé ». Je pense qu'à ce moment-là, la plénitude de Dieu, le texte dit que le Saint-Esprit descendait sur Jésus, et c'est la même chose, que la plénitude de Dieu a envahi Jésus. Il a été saisi de tout son être par le Père. Tu es mon Fils, mon bien-aimé, celui que j'espérais. Celui que le peuple espère depuis si longtemps. Voix du ciel, ciel ouvert, Saint-Esprit, tout cela sans doute était une seule et même expérience, au-delà des mots, au-delà des images. Ce qui est sûr, que Jésus ne sera plus jamais le même. Cette Cette expérience, cette parole divine, cette révélation de l'amour de Dieu, cette élection le bouleverse tellement qu'il cherche immédiatement la solitude dans le désert, poussé, dit le texte, par l'Esprit. Jésus a besoin d'être seul. Il a besoin de comprendre ce qui lui arrive. Il a besoin de digérer cette expérience qui bouleverse sa vie. Il a besoin d'écouter Dieu, à quoi Dieu l'appelle. Et comme j'ai dit, le peuple d'Israël a erré dans le désert à l'écoute de Dieu pendant 40 ans, sans doute un chiffre un peu symbolique. Jésus a erré 40 jours, comme Élie avait erré dans le désert après qu'il avait entendu le souffle léger comme révélation de Dieu, comme Jean-Baptiste avait erré dans le désert à l'écoute de Dieu. Et dans le désert, j'ai mis un petit peu le pied dans le désert l'année dernière en Israël. Et plusieurs parmi vous l'ont fait, je pense. On n'échappe pas au silence, ni à cet infini du ciel et de la terre et notre petitesse. On échappe, quand on est seul dans le désert, pas à la face à face avec soi-même et je pense aussi avec Dieu. Mais c'est là où tout se complique. Parce que quand on est seul avec soi-même, entouré de solitude et de silence, il y a tellement de choses qui commencent à parler en nous. Dans notre tête, dans la solitude et le silence, dans notre corps aussi, et des choses profondes qui viennent à la surface, et pas toujours le meilleur. C'est qu'on est seul et surtout fatigué, et Jésus est fatigué après tant de jours de jeûne, de ne pas avoir mangé. C'est là, il y a d'ailleurs, que l'adversaire nous cherche, qu'on est fatigué, profondément fatigué, pour nous déprimer, n'est-ce pas? Nous connaissons tout cela. Et on peut, dans de tels moments, commencer à douter dans la fatigue, dans la solitude, dans notre tête, de beaucoup de choses. Des choses qui étaient avant peut-être assez claires et limpides pour nous. Et là, on commence à se mettre en question, à dire, mais non, non, tu ne vas pas y arriver. Non, non, tu es nul. Non, non. D'où vient cette voix? Ce qui vient de l'intérieur de nous ou parfois de l'extérieur, si difficile à dire. Jésus vient de vivre cette expérience, la plénitude de l'amour de Dieu pour lui. Et tout d'un coup, il y a des voix qui disent, qui lui murmurent, des voix d'ailleurs ou de l'intérieur, « Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. » Autrement dit, ce n'est pas si sûr, ça reste à voir, cela reste à croire. C'est quand même énorme, Jésus. Toi, le petit charpentier de Nazareth, tu seras l'élu, le Messie. Tu seras le Fils de Dieu. La voix diabolique sème le doute subtilement comme le serpent a fait avec Ève et Adam au paradis. Est-ce que le doute envahit vraiment Jésus lui-même? Possible, tout à fait possible. Parce que ailleurs dans les évangiles, nous voyons Jésus prier parfois toute nuit pour savoir à quoi Dieu l'appelle. Le moment le plus connu, nous le connaissons tous, est celui dans le jardin de Gethsémané, juste avant son arrestation qui mène à sa mort. Les évangiles disent que Jésus prie, « Père, que cette coupe me soit épargnée. » Comme Jésus a un dernier grand moment de doute, d'angoisse, de peur, avant le dernier jour de sa vie. Jésus a connu des combats intérieurs réels et âpre pour connaître ou accepter le chemin de Dieu pour lui. Pour arriver à dire, comme dans le chemin de Gethsémané, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a toujours cherché le royaume de Dieu et sa justice, de toute sa force, de toute son âme, de tout son cœur, de toute son intelligence. Il a fini toujours à se remettre à Dieu, son Père. Même sur la croix, dans ce dernier cri terrible et déchirant en quelque sorte, « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» La fin du psaume 22, d'où vient cette citation, parle de confiance en Dieu. Et Luc nous dit que sa dernière parole était « Mon Père, dans ta main, je remets mon esprit. » Le premier grand combat spirituel de Jésus était bien ce séjour dans le désert. Peut-être le plus décisif dans sa vie, je le pense. Il aura peut-être dit oui, non, c'est pas vrai. Et jusqu'à là, il avait vécu dans son village comme charpentier. Est-ce que Jésus avait été pleinement conscient qu'il était l'élu de Dieu, le Fils de Dieu ? Ce qui est sûr, c'est au moment de son baptême, tous les textes le disent. Il a entendu cette parole de Dieu. Mais dans la suite, il entend cette voix accusatrice qui met en doute tout, qui veut tout défaire, détruire, mettre en cause. Dieu merci, Jésus à côté, choisi le côté de Dieu et repoussé les voix accusatrices et divisatrices. Malgré les ruses, les tentations subtiles, les propositions alléchantes qui promettent tout, la richesse, le pouvoir, qui citent même l'Écriture, qui détournent la parole de Dieu pour déstabiliser Jésus, parce que ça, Satan sait faire aussi avec la Bible en main, dire n'importe quoi, comme parfois ça se passe dans notre monde. Revenons un instant sur ces trois propositions par lesquelles Satan a voulu tirer Jésus dans son camp. J'ai mieux compris en préparant cette prédication qui porte sur trois choses essentielles. La relation à soi, à soi-même, la relation aux autres et la relation à Dieu. Et Satan cherche à brouiller chez Jésus ces trois relations fondamentales. À soi-même, son corps, son esprit, aux autres et à Dieu. Première tentation, Jésus, tu as faim. Après tant de jours sans avoir mangé dans le désert, demande à ces pierres de devenir du pain et tu n'entendras plus le cri de souffrance de ton corps. Et Jésus, de répondre, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, il y a le cri du corps, si fort en l'homme, avec ses besoins vitaux, avec nos passions sexuelles aussi. Ce corps qui nous rappelle si souvent que nous sommes tirés de la terre, attachés à la terre, nés de la terre. Mais, nous dit l'Écriture, l'homme est bien plus que son corps, plus qu'une espèce parmi d'autres, bien qu'il ait cela aussi. L'homme est aussi un être spirituel qui dépasse la nature dans le sens que nous sommes capables d'aimer, de nous décentrer de nous-mêmes, même entièrement, jusqu'à se donner entièrement aux autres. C'est l'appel de l'esprit. L'expérience de la liberté en nous est donc aussi la responsabilité et l'amour qui fait la noblesse de l'homme, de l'être humain, et qui devient en nous une vocation spirituelle. Nous ne sommes pas seulement notre corps, déplaise à une société si matérialiste qui nous entoure. Nous sommes capables d'entendre l'appel de l'esprit, à nous sentir profondément responsables pour les autres. Et nous l'avons dit ici ces dernières semaines, aussi pour les êtres vivants, pour les animaux, des êtres responsables, ce qui implique la liberté, du choix, d'action, d'acte. Nous sommes avec cela des êtres spirituels, bien plus de notre corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous sommes bien plus que notre compte de banque ou notre frigo à la maison. Deuxième tentation, le pouvoir, la domination des autres et la richesse. Ô Jésus, je te donne toute la richesse du monde, tout le pouvoir du monde. Si, il y a un si. Avec la richesse et le pouvoir, il y a toujours plein de si. Il y a toujours plein de choses qu'il faut sacrifier pour le pouvoir et la richesse. Si tu te mets devant moi, le diviseur, parce que c'est ça, diabolos, moi, l'accusateur, moi, le mensonge, moi qui aime les ténèbres, parce que c'est ça, Satan, il aime les ténèbres. Œuvrer dans les ténèbres. Oui, ces choses font si souvent ensemble, presque toujours, pouvoir et mensonge, domination et division, pouvoir et ombre. Nous le savons. Volonté de cacher la réalité, par exemple des perversions sexuelles. Tout cela a traversé nos sociétés, mais aussi l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Et un jour, les choses viennent à la surface. Le lien entre pouvoir religieux et des choses cachées. Jusqu'à des choses criminelles. L'Église aussi est une institution faite d'êtres humains, pour le meilleur et pour le pire, comme partout ailleurs. Jésus nous dit que seul le chemin de l'humilité libère de l'abus du pouvoir. Que seul le chemin de certaine pauvreté nous libère de la richesse. D'abord une pauvreté intérieure, une humilité intérieure. Et Jésus surtout le vit lui-même. Jésus vit toujours ce qu'il nous prêche d'ailleurs. Pas toujours nos prêtres ou nos pasteurs. Mais Jésus vit, il vit ce qu'il nous enseigne. Et jusqu'au bout, il vit un chemin de humilité, d'humiliation même sur la croix. Et seul le pouvoir de l'amour a le dernier mot, aucun autre pouvoir. Il y a au cœur du christianisme, sans le dire de quelques théologiens, et pas le moindre, par exemple Dietrich Bonhoeffer, même un Dieu qui renonce à sa toute-puissance au nom de l'amour, et c'est peut-être le symbole de la croix, ou la réalité de la croix. L'humilité de Dieu, dit le jésuite Varion, d'un Dieu crucifié, dont le seul pouvoir qui reste est le pouvoir d'aimer, de pardonner, comme Jésus fait sur la croix, dans son dénuement, une perte de pouvoir totale. C'est cela notre Dieu, dit l'Évangile. Troisième tentation, saute Jésus du haut du temple, et les anges de Dieu te sauveront. C'est l'Écriture qui le dit, cite le psaume 91. Et tout le monde applaudira, parce que le temple est toujours plein du monde. Si on voit ce miracle-là, Jésus qui saute et qui est sauvé, mais Jésus, tu seras les héros du jour, pour quelques jours. Quelle est cette dernière tentation? Elle est d'utiliser Dieu ou les forces de Dieu, ses anges, ses serviteurs, pour sa propre gloire. Autrement dit, d'instrumentaliser Dieu pour la gloire de l'homme, pour que l'homme s'en sort au mieux, qu'il se met en valeur. Et mon Dieu, qu'est-ce que la religion, le christianisme inclus, ont utilisé Dieu et le nom de Dieu pour enrichir un pouvoir religieux, de prestige, de l'argent, le pouvoir du clergé, ces hommes qui possèdent les clés ou les sacrements du salut, qui ont le pouvoir dans l'Église. Toutes les religions en souffrent. Cela depuis la nuit des temps. Comment être vraiment au service de Dieu au lieu de nous servir de Dieu? C'est peut-être la question clé de la foi en Dieu, de la religion. On peut se servir de Dieu aussi pour se donner bonne conscience ou une assurance de vie devant la mort, un pardon qui est facilement obtenu, ne nous demande pas vraiment de nous changer. Nous, les protestants aussi, on a nos manières de nous servir de Dieu. Parce qu'être vraiment au service de Dieu, c'est se laisser déranger par Dieu. C'est de se mettre à l'écoute, dans son cœur. Dieu, qu'est-ce que toi tu me demandes et tu me dis? Tout le reste risque d'être institution, pouvoir religieux. Mais Jésus, il a cherché uniquement le royaume de Dieu et sa justice. Il a créé aucune institution. Il meurt sur la croix laissant quelques disciples. Jésus ne détiendra aucun pouvoir humain. Il exercera seulement le pouvoir de pardonner, de guérir, d'accueillir, d'aimer. Il faut conclure. Bien plus qu'un Jésus qui était d'avance vainqueur de Satan par son statut de fils de Dieu ou de Dieu, je pense que les tentations dans le désert ont été pour Jésus un véritable temps d'épreuve, de questionnement humain, de doute, de lutte avec des forces de ténèbres. L'événement déclencheur, je l'ai dit, était bien été son baptême, cette expérience bouleversante qui a bouleversé sa vie, où il se découvre l'élu de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Peut-être il faut dire que le vrai Jésus est né dans le désert. Ne dit-on pas que c'est dans l'épreuve que la vraie valeur d'un homme, d'une femme, se manifeste, dans l'épreuve. Jésus est pour nous le chemin, la vérité et la vie, parce qu'il nous enseigne ce que nous sommes en vérité, fils et filles bien-aimés du Père, certes nés de la terre, mais appelés par le ciel. Il nous enseigne comment nous pouvons vivre en frères ensemble en étant au service les uns les autres, en renonçant à la loi du plus fort, en choisissant une autre loi, celle du cœur de l'amour. Il nous propose enfin de chercher Dieu et sa justice de manière qui libère l'homme, humanise l'homme, au lieu d'instrumentaliser Dieu pour une religion qui asservit l'homme et l'empêche d'accéder à la liberté des enfants de Dieu. Pour Jésus, la source de toutes choses, et donc c'est l'expérience qu'il a vécue avec son baptême, c'est l'amour de Dieu, ce Père qui lui a montré un amour bien au-delà de tout le jour de son baptême. Un amour sans mesure, sans frontières, sans fond. L'Esprit Saint de Dieu. Et Jésus a su garder ce trésor malgré ses 40 jours dans le désert de doute et de combat, pour en parler ensuite aux hommes, à ses disciples, pour le partager ce trésor aux hommes et pour nous inviter tous, aujourd'hui encore, à trouver ce trésor en Dieu. Dieu qui est plus grand que notre cœur, infiniment plus grand, mais qui veut habiter nos cœurs, c'est cela. Le mystère de la foi chrétienne. Pour que chacun de nous trouve dans sa vie le chemin du doute de Dieu à la confiance en Dieu avec Jésus, l'appel du corps à l'appel de l'esprit, du besoin de dominer à la joie de servir, de l'instrumentation de Dieu et la religion au véritable service et adoration de Dieu. Jésus est, je termine, et sera toujours pour nous le meilleur guide sur ce chemin. Moi-même, j'en ai pas trouvé d'autre, même pas dans le Bouddha. Celui que Dieu lui-même nous a donné, ce Jésus de Nazareth, celui en qui nous avons vu le visage de Dieu, le véritable visage de Dieu, tellement le Fils ressemble le Père, et c'est d'abord une ressemblance dans l'amour. Amen. Thank you.